Alors maintenant, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 21. L'Évangile de Jean, chapitre 21, où nous allons terminer ce matin notre étude à la découverte de Jésus. Et nous allons réfléchir ensemble et je vais vous donner un ensemble d'éléments auxquels vous allez pouvoir réfléchir, notamment sur l'exemple de la vie de Jésus, surtout avec ce que nous avons appris depuis plus d'un an maintenant, enfin presque un an, en parlant de Jésus, en apprenant de lui à travers cet évangile. Et si vous êtes dans Jean chapitre 21, ce sont les deux derniers versets avec lesquels nous allons commencer. Et ensuite, on passera un peu de temps à réfléchir aussi sur plusieurs autres versets, mais on va commencer ici, ce matin, dans Jean chapitre 21, les versets 24 et 25. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Nous voyons ici que Jean termine cet évangile avec ses quelques dernières paroles à la fois pour encourager, pour fortifier, mais aussi stimuler ceux qui lisaient au premier siècle. Et même s'il ne se nomme pas, il dit « ce disciple, nous savons que c'est Jean », il va rendre témoignage. Il va dire « moi, j'ai vu ces choses et c'est moi qui les transmet et aussi qui les a écrites ». Alors, nous savons qu'il y a ce diphtongue français, les paroles s'en vont, les écrits restent. Nous pouvons, et n'importe qui peut dire certaines choses, mais lorsque c'est écrit, il y a une trace. Il y a quelque chose qui reste, auquel on peut faire référence, qui est sûr, qui est certaine. Et ici, Jean dit, j'ai écrit ces choses et c'est pour notre bénéfice. C'était pour le bénéfice de ceux qui habitaient au premier siècle, qui ont lu ceci pour la première fois lorsque Jean l'a écrit et à travers les années qui ont suivi. Mais c'était également pour nous. Et à la fin du verset 24, il y a cette affirmation qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous aide à faire face à des attaques qui pourraient venir. Nous savons que son témoignage est vrai. Aujourd'hui, on cherche à minimiser la Bible. On dit qu'elle est écrite par les hommes. On dit elle a été falsifiée, certaines parties ont été perdues. On va soulever tout un ensemble d'arguments, d'attaques contre la Bible et on va se moquer de notre croyance dans la Bible comme parole de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous le sommes, nous devons nous tenir sur le fait et ne jamais nous laisser ébranler par des personnes qui chercheraient à nous dire « la Bible n'est pas la parole de Dieu ». Et le verset 25, on en a parlé brièvement la semaine dernière, mais je veux revenir là-dessus. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et je trouve ceci extraordinaire parce que ici, nous ne parlons pas simplement des miracles. Jésus a certainement fait beaucoup d'autres miracles. Chapitre 20 nous avait parlé de cela, mais ici, beaucoup d'autres choses, les choses de tous les jours. Et c'est quelque chose dont on va parler dans quelques instants, mais Jésus vivait sa vie normalement. Et il y a des choses à apprendre. de cela. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, si on devait raconter tout ce que Jésus a fait, seulement pendant les 3 ans de ministère qu'il avait, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Aujourd'hui, on dirait qu'on n'aurait pas de disque dur assez grand. On n'aurait pas la capacité de stocker, de raconter, de mettre par écrit ou même de mettre dans des données tout ce que Jésus a fait. Parce que Jésus était à l'œuvre. Jésus a vécu sa vie. Normalement, Jésus agissait dans le monde. Jésus ne vivait pas sa vie en ermite. Jésus ne s'isolait pas en laissant les gens venir à lui. Souvent, c'était lui qui s'approchait des gens. Et donc, Jésus, il a beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Et justement, en réfléchissant sur cette idée que Jésus a fait beaucoup, Jésus était à l'œuvre, Jésus agissait, Jésus était actif dans le monde dans lequel il vivait. Je me suis dit, tout ce que nous avons appris de Jésus à travers cette étude doit être mis en pratique. Et je me suis arrêtée sur plusieurs aspects, plusieurs exemples, plusieurs choses que nous avons appris de Jésus à travers cette étude. Et je vais vous les donner et puis je terminerai chaque partie par une question. Vous allez comprendre un peu le sens de cela petit à petit alors qu'on avance. Donc, nous sommes à la découverte de Jésus. Jésus a fait énormément de choses. Jean, il a fait un choix dans ce qu'il a écrit et Dieu a permis à ce que ceci soit gardé jusqu'à nous pour nous instruire. Mais qu'est-ce que nous avons appris de Jésus? Si on retourne dans le chapitre 1, si vous avez votre Bible, vous pouvez aller et regarder chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et par cela, une des premières choses que nous avons appris, c'était Jésus, il est Dieu. Il est Dieu dans tous ses aspects, il est l'égal de Dieu, il n'est pas un petit Dieu, il n'est pas un demi-Dieu ou que sais-je encore, il est Dieu réellement. Et il me semble que je suis en train de parler à des gens qui sont totalement convaincus de cela. Mais la question à se poser, c'est « et alors ?» Et cette question, elle va revenir souvent pendant les quelques minutes qui viennent. Et alors, Jésus est Dieu. Et alors, dans notre monde aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça apporte? Et le fait de savoir que Jésus est Dieu doit nous réconforter, doit apporter une stabilité dans notre vie parce que, avec Jésus en tant que Dieu, rien ne nous manque. Jésus, il avait affirmé cela dans Matthieu chapitre 6, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu s'occupe de la terre, Dieu s'occupe des fleurs des champs, Dieu s'occupe des oiseaux. Avec un tel soin, une telle tendresse. Et Jésus, il est Dieu, donc lui aussi, avec son Père, il s'occupe de toutes ces choses. Et nous, qui sommes ces créatures particulières, et d'autant plus ces enfants, si nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, ne voyons-nous pas que Jésus, en tant que Dieu, va prendre soin de nous? Et il n'est pas limité. Jésus, en tant que Dieu, il est tout-puissant. Jésus, en tant que Dieu, il sait toutes choses. Jésus, en tant que Dieu, pourvoit pour nous et nous dirige pas à pas. Et Jésus, en tant que Dieu, il est toujours avec nous. On ne peut aller nulle part où Jésus n'est pas. Il est toujours avec nous parce qu'il est Dieu. Donc, nous voyons que Jésus, une des premières choses qu'on apprend de lui dans ce livre, c'est que Jésus est Dieu. Et alors, ça veut dire, il est avec moi et il m'aide. Mais aussi, une des choses que nous voyons dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, c'est que Jésus est homme. Dans ce premier chapitre de Jean, si vous y allez, vous allez revoir, parce qu'on l'a déjà vu, que Jésus est venu chez les siens. Il est paru comme un vrai homme. Il était réellement à 100% un homme. Paul, en parlant de Jésus dans Philippiens chapitre 2, va dire que Jésus s'est abaissé. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu en vrai homme. Il était 100% homme tout en étant 100% Dieu. Et Jésus, en tant qu'homme, et alors ? Ok, c'est très bien. Jésus est à 100% homme. Ok, formidable. Mais moi, je vis ma vie au 21e siècle, l'année 2020, dans un confinement. Nous sommes dans une pandémie. On est dans l'incertitude totale. Jésus, en tant qu'homme, qu'est-ce que ça m'apporte ? Et alors ? Et le fait que Jésus est homme, ça veut dire qu'il sait exactement par quoi nous passons. Il n'a pas simplement une connaissance théorique, parce qu'il est Dieu, parce qu'il sait toutes choses, de ce par quoi nous passons. Il a une connaissance expérimentale, c'est-à-dire qu'il a expérimenté les choses par lesquelles nous passons. Jésus a connu la fatigue. Ça me dépasse à chaque fois que j'y pense. Le Dieu Tout-Puissant s'est rendu semblable à un homme et il a été fatigué. Plusieurs fois dans l'évangile de Jean, nous voyons cela, chapitre 4, entre autres. Jésus marchait, Jésus se déplaçait, Jésus passait des journées entières à guérir des personnes et il était fatigué. Et parce que Jésus est homme, parce qu'il a expérimenté cela, lorsque nous sommes fatigués, nous pouvons nous tourner vers lui en disant, « Jésus, tu sais ce par quoi je passe. Toi, tu es allé jusqu'au bout. Toi, tu peux me fortifier. Je fais appel à toi. » Lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes devant des situations qui nous semblent insurmontables ou qui sont complexes, ou même des situations par lesquelles nous ne voulons pas passer. Nous savons que c'est le cas, mais nous savons que c'est la chose à faire, mais nous ne voulons pas vraiment. Jésus lui-même a été confronté à ça. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus, par trois fois, va prier son Père et va dire, si cette coupe peut passer de moi, si je n'ai pas besoin de la boire, mais non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Donc Jésus, en tant qu'homme, ne voulait pas aller jusqu'à la croix, ne voulait pas subir la souffrance physique, ne voulait pas subir la souffrance morale qui venait avec la croix. Mais il a fait. Et parce que lui, il a triomphé, parce que lui, il a eu la victoire en tant que vrai homme, nous aussi, aujourd'hui, devant des situations qui nous semblent tellement ingérables, les situations par lesquelles nous ne voulons pas vraiment passer, mais nous savons que c'est ce que Dieu a préparé pour nous, de regarder à Jésus et de dire, Jésus, toi, tu l'as fait. Alors, Jésus, en tant qu'homme, et alors, voilà, il peut nous aider aujourd'hui. Son expérience dans tous les domaines. Jésus a eu faim. Jésus a eu soif. Jésus était fatigué. Jésus a expérimenté toutes ces choses et bien, bien d'autres. L'Épître aux Hébreux va nous dire qu'il peut compatir avec nous parce qu'il a été rendu semblable à nous en tout point, sauf le péché, bien sûr. Et donc, lorsque nous passons par des situations, n'importe lesquelles, de savoir que Jésus lui-même, en tant qu'homme, a subi ces mêmes choses. Et donc, il peut compatir Donc Jésus en tant que Dieu. Et alors, ça veut dire qu'il est avec nous. Il va pourvoir, il va diriger. Jésus en tant qu'homme, il peut compatir, il sait par quoi nous passons. Alors, une autre chose que nous avons appris à travers cette étude, c'est Jésus est patient. Et lorsque nous regardons l'évangile de Jean, je ne cesse d'être frappé, d'être bouleversé, d'être repris en moi-même par la patience de Jésus. Jacques, lui, va dire, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et Job a été extrêmement patient. Mais Jésus, encore plus. Jésus a été patient. Et finalement, il a été patient même avant de venir sur la terre. Parce que nous savons que Jésus n'est pas venu en avance. Jésus est venu exactement au moment où il fallait. Jésus ne s'est pas précipité pour venir sur la terre pour accomplir le salut de l'humanité. Jésus est venu exactement au moment où il fallait. Et pendant qu'il était sur la terre, il vivait parmi des personnes qui, lorsque nous lisons les évangiles, étaient extrêmement agaçants, étaient extrêmement frustrants. Mais Jésus était patient, tout d'abord avec ses disciples. Lorsque je lis comment Jésus a traité avec ses disciples, je ne cesse d'être émerveillé et aussi de rester bouche bée devant leur incrédulité, leur lenteur à comprendre de bien agir. Ils ont presque tout fait de travers. Il y a quelques lumières, quelques petits épisodes où ils font le bien, ils disent de bonnes choses. Pierre qui va dire « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, gloire à Dieu. » Mais dans la grande majorité, les disciples, et là on parle des douze, les apôtres, il y avait de quoi être frustré avec eux, de manquer de patience. Et souvenons-nous, Jésus était avec les disciples tous les jours. Ils voyageaient ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils habitaient ensemble. Et nous voyons que Jésus était extrêmement patient avec eux. Mais Jésus était aussi patient avec la foule. C'est-à-dire cette foule qui le suivait un peu partout. Chaque fois où il allait dans un lieu, il y avait des gens qui se rassemblaient, souvent dans des intentions égoïstes. Il cherchait soit à manger, il cherchait simplement des miracles, il voulait voir quelque chose de spectaculaire. Et Jésus est extrêmement patient avec eux. Il ne les envoie pas rentrer chez eux en disant « mais je ne ferai rien pour vous, regardez vos attitudes et tout ». Non, finalement, Jésus est extrêmement patient avec eux. Aussi, Jésus, il est patient avec les pécheurs. Plusieurs fois, nous voyons Jésus qui rencontre des gens qui vivaient délibérément et ouvertement dans le péché. D'ailleurs, c'était souvent des femmes, non pas que des femmes étaient plus pécheresses que les hommes, mais on voit le soin de Jésus pour elles. Mais nous pouvons penser à Jean chapitre 4, la femme samaritaine près du puits. Elle avait eu 5 homme comme mari, et le sixième monsieur avec lequel elle était n'était pas son mari. Donc, elle vivait ouvertement dans le péché. Quelques chapitres plus loin, il y a la femme prise en flagrant délit d'adultère. Et là, dans l'une et dans l'autre cas, Jésus est patient avec elle. Il ne les condamne pas, bien que leur péché était condamnable, et il leur dit de ne plus pécher. Mais Jésus est patient avec elles, cherche à les emmener plus loin dans leur connaissance de Dieu. Jésus n'est pas sévère. Et puis, il faut le reconnaître, aujourd'hui, Jésus est patient avec nous. Combien de fois avons-nous péché délibérément contre Dieu? Combien de fois est-ce que nous avons fait un mauvais choix en toute connaissance de cause? Combien de fois avons-nous négligé délibérément quelque chose que Dieu nous a demandé de faire ou Dieu nous a commandé de faire? Et de savoir qu'aujourd'hui, Jésus, il est patient en disant, je condamne ce péché, mais je vais te pardonner lorsque tu demandes pardon. Et cette relation peut être restaurée immédiatement. Combien de fois? Et Jésus ne dira jamais, ah, c'est la foi de trop. Jésus ne dira jamais, ah, va, reviens me voir lorsque tu es sincère. Va, reviens lorsque tu auras réfléchi vraiment à ce que tu as fait et que tu seras vraiment désolé. Non, jamais. Jésus, avec des bras ouverts, nous accueille pour nous pardonner lorsque nous demandons pardon. Et ça, c'est Jésus, ça. Il est patient. Et il va attendre jusqu'à ce que nous revenions vers lui. Et du coup, on se pose la question, très bien, Jésus, il est patient, et alors? Ok, c'est très bien, il est Dieu. Bien sûr, il sera patient. Et alors, pour ma vie aujourd'hui? Eh bien, parce que Jésus est patient, ça veut dire qu'en tant que son enfant, puisque je suis appelé à le ressembler, je dois aussi être patient avec les gens qui m'entourent. Et en ce moment, pendant ce confinement, pendant que nous sommes entre quatre murs plus que jamais, que par exemple nous sommes en famille, confinés, il y a beaucoup plus de possibilités pour Satan de nous tenter de perdre patience avec les membres de notre famille, avec ses enfants, les enfants avec les parents. Entre mari et femme, j'ai lu des statistiques cette semaine, vous les avez peut-être vues sur Facebook, on parlait notamment de la Chine. À cause du confinement, le taux de divorce a augmenté de façon significative. Et c'est triste, mais ils se sont rendus compte que parce que les gens passaient plus de temps ensemble à la maison, bah, n'arrivaient plus à se supporter, ils avaient perdu patience. Et puis, des relations entre les parents et les enfants, ou les enfants entre eux, ça va pendant un moment avec son frère, avec sa sœur, mais au bout d'un moment, on peut perdre patience. Et Jésus nous montre l'exemple. Jésus est patient, alors que nous continuons de répéter les mêmes erreurs. Jésus est patient, Jésus pardonne. Et parce que nous sommes son enfant, si nous le sommes, ben nous devons aussi être patients avec ceux qui sont avec nous. Et puis, cette patience, elle doit s'étendre aussi aux gens que nous rencontrons à l'extérieur. Surtout en ce moment, parce que les gens sont sur les nerfs, parce que les gens, eux, aussi sont frustrés. Ce confinement touche tout le monde de différentes façons. Certains supportent mieux que d'autres, mais ce confinement, il touche tout le monde. Et lorsque nous sortons, par exemple, au magasin, de savoir à l'avance, les gens, ils seront déjà frustrés. Ils arrivent au magasin déjà frustrés. Et si nous aussi, nous arrivons frustrés, sur les nerfs, nous risquons d'exploser. Nous risquons de perdre patience avec les gens qui sont là. Et quel témoignage pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous imitons vraiment Jésus en faisant cela? Non. Jésus, lui, il est patient. Et c'est une façon pour nous de briller vraiment de façon extraordinaire de cette lumière qui vient de Dieu. Alors, Jésus est patient. Et alors, ça veut dire je dois être patient avec les gens qui m'entourent. sans faire de distinction. Nous n'avons pas le droit de dire « Ah, c'est la foi de trop ». Nous n'avons pas le droit de nous emporter. Et si nous le faisons, reconnaissons que c'est mal devant Dieu. Reconnaissons que c'est quelque chose pour lequel sûrement on doit demander pardon à Dieu, aux personnes contre lesquelles nous sommes énervés, et de restaurer cette relation. Aussi, une chose que nous avons appris de Jésus, à travers cette découverte de Jésus dans les évangiles, c'est que Jésus agit. Alors, à la fin de Jean chapitre 21, comme nous avons vu, Jean, il va dire, Jésus a encore fait beaucoup de choses. Jésus était à l'œuvre, en commençant au chapitre 2, avec les noces à Cana, il a fait un miracle. Et là, il a changé l'eau en vin. Et ainsi, il a démarré son ministère qui va durer 3 ans et il va être à l'œuvre. Il va être avec des personnes, il va enseigner, il va transmettre la parole de Dieu, il va guérir, il va diriger, il va faire un ensemble de choses extraordinaires. Et il était en contact avec des personnes, il agissait. Et lorsque nous voyons notre vie aujourd'hui, nous devons nous poser la question, quel est le but? Le but de Jésus, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Et ça comprenait cette action de la part de sa part. Et aujourd'hui, de savoir que Jésus agissait, Jésus était à l'œuvre, on se dit, et alors? Lui, il avait son ministère particulier il y a 2000 ans. Moi, aujourd'hui, 21e siècle, moi, j'ai mes priorités, moi, j'ai ma vie à vivre, j'ai ma vie à construire. Et alors, Jésus agissait, ok, c'est très bien pour lui. Moi, j'agis aussi. Ok, très bien, mais est-ce que nous agissons dans les bons domaines? Est-ce que nous agissons les uns pour les autres? Et un exemple très concret de cela, surtout en ce moment, c'est le contact que nous gardons les uns avec les autres pendant ce confinement. Je cherche, dans la mesure du possible, de rester en contact avec tout le monde. Alors, si je ne vous ai pas déjà contacté par téléphone, ce n'est pas que je vous ai oublié, c'est que je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Je cherche à contacter tout le monde par téléphone et aussi de rester en contact par Skype, par WhatsApp, par Messenger, toutes sortes de moyens. Et ma prière, c'est que les uns et les autres fassent pareil. Prenez le téléphone. Aujourd'hui, ça ne coûte rien. Les appels sont souvent illimités. Et si ce n'est pas illimité, faisons un petit effort si on peut. Mais le téléphone, c'est un moyen extraordinaire pour rester en contact et d'agir pour un frère, pour une sœur, pour quelqu'un. Mais aussi de s'assurer pour des personnes, par exemple, qui sont seules, des personnes qui sont en difficulté, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Peut-être prier pour quelqu'un, juste dans le secret de sa chambre, le secret de son confinement en ce moment, de prier pour les besoins dont nous sommes au courant, de prier avec quelqu'un, d'appeler quelqu'un au téléphone et de dire, c'est peut-être pas idéal, mais est-ce qu'on peut prier ensemble? Pourquoi pas? De prendre contact, me demander s'il y a de nouvelles requêtes de prière. Moi, je vais tâcher de partager les requêtes que moi j'ai, mais n'hésitez pas à me demander. D'agir à la fois dans la prière, dans le rapprochement les uns avec les autres, bien sûr tout en respectant les règles mises en place par le gouvernement. Mais Jésus agissait, Jésus était à l'œuvre. Et alors? Ok, très bien, pour lui, il y a 2000 ans. Mais ça veut dire que moi, en tant que son enfant, je dois être à l'œuvre aussi pour lui. Et à ce moment-là, ça veut dire que peut-être je dois revoir mes priorités. quelle est ma priorité dans la vie ou quelles sont mes priorités? Est-ce que mes priorités sont de vivre une vie tranquille, sans trop de soucis, une vie confortable? Est-ce que ma priorité, c'est tout simplement de préparer ma retraite? Est-ce que ma priorité, c'est tout simplement assurer la réussite scolaire de mes enfants? Toutes ces choses sont de bonnes choses, comprenons bien. Toutes ces choses sont bonnes, sont nécessaires. Mais est-ce que ces choses prennent le dessus par rapport à notre action pour Dieu? Et là, concrètement, pour l'Église, qu'est-ce que nous faisons? En ce moment, bien sûr, nous sommes éloignés des uns des autres, nous ne pouvons pas venir sur place. Mais lorsque nous allons pouvoir de nouveau venir sur place, lorsque nous aurons la possibilité de sortir et encore faire des choses pour Dieu sur place, est-ce que nous allons nous engager? C'est vrai, nous sommes une petite église, mais est-ce que nous allons nous engager? Souvent, notre église tourne autour d'un petit noyau, alors que nous pourrions être plus à être à l'œuvre pour Dieu. Avec l'exemple de Jésus, est-ce que aujourd'hui, nous serons actifs? Est-ce que nous serons à l'œuvre? Nous allons agir comme Jésus. Jésus agissait, et alors? Ça veut dire que moi, j'agis également. Mais aussi, c'est quelque chose qui va avec, mais c'est quand même quelque chose de distinct. Est-ce que Jésus, lui, qu'est-ce que nous avons appris de lui? Jésus aimait. Et Jésus appelait à l'amour. Pas simplement l'amour dans les paroles, de dire « je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, nous nous aimons, ah c'est formidable, nous nous aimons tous les uns les autres ». Non, mais c'est passer, encore une fois, à l'action. C'est concrètement le montrer. Et du coup, Jésus, il aimait et il appelait à l'amour. Et dans Jean chapitre 13, 14, 16, Jésus va manifester son amour. Et Jean va parler de cela. Et on va dire, Jésus, il a aimé. Et alors? C'est très bien, il est le Dieu d'amour. C'est normal, il est amour. Et il est amour depuis l'éternité passée. Et alors, ok, très bien, c'est formidable pour lui, mais ma vie aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois concrètement déjà aimer Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire passer du temps avec lui. Et passer du temps avec lui, nous n'avons jamais eu autant de temps pour le faire. Aujourd'hui, dans ce moment de confinement, nous avons la possibilité de passer beaucoup plus de temps dans la prière et dans la lecture de la Bible. Et si vous vous posez la question, pourquoi est-ce que je vais prier? J'ai déjà fait le tour des sujets, j'ai déjà prié pour les mêmes choses depuis une semaine ou depuis plusieurs jours. Je ne sais pas pourquoi prier. Prenez contact avec moi. Je peux vous donner des sujets. Et puis, dans la lecture de la Bible, là, nous avons plus de temps à passer dans la lecture de la Bible. Et encore une fois, là, si vous vous dites, je ne sais pas quel passage lire, commencez déjà avec ce qui est dans le bulletin. Cette lecture qui est donnée, et une fois que vous aurez fait ça, si vous cherchez encore des choses à lire, demandez-moi. J'ai un ensemble de lectures bibliques que je peux proposer. Et puis, si vous avez fait une lecture de la Bible et que vous cherchez encore des choses à lire, je peux faire des recommandations de livres de la Bible, de livres chrétiens, livres sur la Bible. Et puis, il existe un ensemble de sites Internet aussi, par exemple, toutpoursagloire.com. Alors, comme avec toute chose sur Internet, faisons attention, faisons le tri. Mais il y a un ensemble de sites chrétiens qui proposent des études, des lectures, des pensées qui peuvent être très bien. Alors, notre amour pour Dieu passe par un rapprochement avec lui, par une meilleure connaissance de sa personne et de comment il agit dans la prière, dans la parole, dans la méditation sur lui. Mais aussi notre amour les uns pour les autres. Notre amour concrètement lorsque nous sommes ensemble, mais aussi lorsque nous sommes loin des uns des autres. Est-ce que je manifeste concrètement mon amour? Cette semaine, Marie-Flore a travaillé plusieurs jours, ou au moins un jour ou deux, à l'hôpital de Vernon, parmi des patients malades, certains avec le COVID-19. Alors, j'espère que le plus grand nombre ont pris contact avec elle. Je vais vous avouer que moi, je ne l'ai pas vraiment fait. Et ça, c'est un tort de ma part. Mais est-ce qu'on a pris contact avec elle? D'autres étaient malades. Est-ce qu'on a pris contact avec ces personnes? Un coup de téléphone. Voilà. De prendre des nouvelles, de rassurer, de prier ensemble, partager un verset. Le mardi soir, on est sur Skype. On se voit, on chante, on prie, on partage. En faisant cela, on manifeste notre amour les uns pour les autres. Si les uns et les autres sont dans le besoin financier ou autre, ça peut être à tous les niveaux, eh ben, est-ce que nous sommes là pour aider? Pas simplement de dire, comme dit Jacques, allez, allez-vous-en, chauffez-vous, soyez bénis, sans rien faire concrètement. Non, est-ce que nous sommes prêts à aider concrètement? Jésus, lui, il manifestait son amour. Et alors, en tant que ses enfants, nous devons aussi manifester son amour. Et dans Jean chapitre 13, c'est vraiment un de ces versets clés de cet évangile, Jésus dit à ses disciples, chacun saura que vous êtes mes disciples. Non pas parce qu'on porte une cravate, parce qu'on a un costume, parce qu'on est ensemble le dimanche matin, non pas parce que on ne boit pas ceci, on ne mange pas cela, non pas parce qu'on fête tel ou tel jour, non pas parce que on prie à telle ou telle heure. Non, 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 non. On saura qu'on est disciples de Jésus par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Jésus a manifesté son amour en allant jusqu'à la croix pour nous. Et bien sûr, il ne nous demande pas d'aller sur la croix les uns pour les autres. Mais il nous demande de faire des sacrifices pour montrer concrètement notre amour. Sommes-nous prêts à le faire? Alors, Jésus a vécu sa vie réellement il y a 2000 ans. Il est né, il a grandi, il a eu son ministère pendant 3 ans. Il est mort, il est ressuscité, gloire à Dieu, il est remonté au ciel. Et alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre la vie que Dieu veut pour moi. Aujourd'hui, j'ai tout parce que si j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, je fais partie de la famille de Dieu. Je suis enfant de Dieu et j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que je vais pouvoir refléter cela? Demandons à Dieu la sagesse. Aujourd'hui, comment, même pendant cette période de confinement, comment est-ce que je vais pouvoir ressembler à Jésus, comme nous avons chanté tout à l'heure, si réellement c'est notre désir? Ne chantons pas ces paroles à la légère. Si c'est réellement notre désir, demandons-lui la sagesse. Jésus nous apprend tellement de choses. Et alors, eh ben, c'est pour que nous puissions imiter son exemple aujourd'hui, 21e siècle, à Vernon, là où nous sommes. C'est pour mettre en pratique, concrètement, les uns envers les autres et autour de nous son exemple et que sa vie soit vue à travers la nôtre. Bien sûr, nous sommes en nous-mêmes insuffisants pour ces choses. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous pouvons avoir la meilleure volonté, mais sans l'aide de Dieu, ça n'ira pas très loin. Du coup, dans la prière, il nous faut demander son aide et c'est ce que nous allons faire là pendant quelques instants, que chacun, donc chez soi, prie. Moi, je vais prier et pendant que je prie, aussi, vous pouvez prier de votre côté pour demander l'aide de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons pour l'exemple de Jésus. Tout ce qu'il nous montre à travers sa vie sur la terre il y a 2000 ans. Merci pour cet exemple qui nous montre ce que tu attends de nous aujourd'hui. Merci pour la puissance qui est à notre disposition grâce à Jésus. Merci que tu ne nous laisses pas seuls dans ce monde, mais tu es avec nous et que tu nous aides, Seigneur. Merci de nous faire partie de ta famille si nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel. Et nous demandons aujourd'hui, Seigneur, en ce moment, ton aide. Nous faisons appel à toi et nous savons que tu ne restes pas sourd, tu ne restes pas impuissant, tu ne restes pas indifférent, mais au contraire, tu es prêt à venir à notre secours parce que nous sommes faibles, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes puissants. Que tu nous aides, Seigneur, aujourd'hui, à travers les jours à venir, Seigneur, alors que ce confinement se prolonge, que tu nous gardes à tous les niveaux, que tu gardes notre témoignage pour toi et qu'il soit évident à la vue de tous que tu es en train de travailler en nous, que c'est ta vie qui se vit à travers nous et que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tout cela pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen.